Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour une émission tout à fait spéciale, c'est la vôtre, consacrée au 27e prix des auditeurs du Masque et la Plume, un prix qui exprime depuis un quart de siècle et grâce à vous une certaine idée du cinéma, de Piala à Kechiche, de Sautet à Audiard et de Lynch à Almodovar, comme chaque année. Vous avez voté en masse. Et sans passer par la case primaire, pour élire à l'Élysée du 7e art les deux films français et étrangers que vous avez préférés en 2016. Impossible évidemment de citer tous les titres que vous avez aimés. Nous n'avons retenu dans chaque catégorie que les 10 films les plus cités, un palmarès commenté par les masqués et plumés, Daniel Eman, bonsoir, de Marianne, Eric Neuhoff du Figaro, Pierre Murat, Pierrot. Là, tu pourras ce soir raconter la fin du film, puisque la plupart ils sont sortis. Là, tu peux.
Ah, c'est gentil. Je vais me régaler, merci.
Avant de recevoir le lauréat, on va pas tarder. On va commencer, si vous voulez bien, avec les films étrangers à la 10e place. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de titres cités, mais qui viennent au-delà de cette 10e place. Donc à la 10e, c'est Spotlight de Tom McCarthy, qui raconte, vous le savez, l'enquête menée en 2001 par les journalistes du Boston Globe, qui fera tomber un véritable réseau de prêtres pédophiles. C'était dans la région de Boston.
Joli film.
Joli film honnête.
Ouais, voilà, pas plus.
Non, un film très efficace à l'américaine, dans la veine des hommes du président, comme ils savent très bien les faire.
Oui, mais je trouve que pour une fois que la presse papier et saluer.
Enfin, la presse papier d'autrefois.
Justement, au moment où la presse papier est en
train de... Il y a 15 ans.
Justement, je trouve que ça fait plaisir et que ça fait du bien.
À la 9e place, L'assassin du Taïwanais ou Saoussien, qui se déroule sous la dynastie Tang, ça vous avait pas échappé, et qui a reçu le prix de la mise en scène à Cannes.
Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est un film dont on a envie d'avoir chaque plan sur faire des toiles et de les mettre sur ses murs, tellement c'est beau. Personnellement, je trouve quand même que c'est d'abord incompréhensible, mais on s'en fout, mais c'est incompréhensible.
On cherche pas à comprendre vraiment dans le film.
Mais moi, bêtement, j'ai cherché, donc évidemment, ça a été ma perte. Mais moi, je préfère quand même, pour tout dire, quand même, le Wu Xiaoxian du maître de marionnettes il y a 20 ans, 25 ans. C'est pas son meilleur, tout de même. Voilà.
Ils ont quand même un peu trop insisté sur le côté emmerdant de la chose.
Mais moi, je le rapprocherai un peu du coréen Mademoiselle, qui est aussi dans notre liste, de Park Chan-wook, parce qu'il y a quand même, dans ces deux films, The Assassin du Taïwanais et dans Mademoiselle du Coréen, des femmes sublimes. Et c'est quand même très agréable à regarder.
À la 8e place, nos auditeurs ont choisi Aquarius, le beau film du Brésilien Kleber Mendoza Filho, qui se déroule à Arrecife, où une femme qui est jouée par une femme que je trouve sublime, qui est Sonia Braga, qui se remémore sa vie dans l'immeuble en front de mer, où elle fait, mais au sens propre, de la résistance.
Ah oui, c'est un magnifique film. Je le trouve un peu bas dans notre palmarès.
8e place, c'est
ouais,
bien.
Oui, non, moi, je l'aurais
un
mis
peu
plus
long
haut.
Aussi.
Je trouve que
très,
c'est
très beau,
magistral.
C'est un film. C'est un très beau film. Magnifique. Et puis, c'est un film vraiment politique au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il prend un cas, une femme, un immeuble, et il filme un pays, la crise d'un pays. Et c'est vraiment très, très fort.
Ce qui était le cas du film d'avant, déjà.
Qui était presque encore mieux, Les Bruits de Récif, qui était magnifique aussi, presque plus
mais
beau
Mais là, c'est vraiment un film qui dit non. Et une femme qui dit non, et c'est très beau.
Et Neuf n'aime pas les films qui disent non. À la 7e position, juste La fin du monde, Grand Prix à Cannes, plus d'un million d'entrées en France, du petit prodige québécois. On peut encore le dire, puisqu'il a 30 ans et des poussières. Xavier Dolan, qui adapte la pièce de Jean-Luc Lagarce avec Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Gaspard Huliel, Léa Seydoux.
Moi, j'avais pas du tout envie d'être dans cette famille qui s'engueulait, ça m'intéressait pas du tout, sauf que j'ai trouvé Gaspard Huliel absolument bouleversant. Et sinon, Joker.
Moi, j'aime pas du tout tous les films du petit génie québécois. Par exemple, les premiers, Les
si
amours imaginaires,
mère,
c'était mauvais comme tout. Et là vraiment, j'ai été bouleversé parce que je trouve que sa façon de diriger de gros plan en gros plan, bon, on peut ne pas aimer ça, mais il y a un style. Mais moi, je trouve que Gaspard Ulliel et Marion Cotillard, ce qui se passe entre eux, dans les deux Gaspard étrangers Ulliel, à la famille, sont absolument magnifiques. Je trouve ça magnifique.
Eric,
beaucoup de virtuosité, mais trop d'hystérie, hein, parce que je veux bien que dans une famille, il y a des hystériques, mais tous les membres de la famille le sont, et ils le sont tout le temps.
Vous n'avez
donc, j'imagine que l'hystérie a aussi ses phases de pause, quand même.
Vous n'avez jamais vécu dans une famille russe, je peux vous assurer. C'est à peu près ça.
Non, mais là, c'est pas l'occasion vraiment de faire nos souvenirs.
Non, je sais, mais enfin, ça m'a rappelé des choses.
On a un palmarès, on a un lauréat, donc on va pas...
D'accord. Pierre Muratov.
Sixième place, Mademoiselle, le thriller à la fois glacial et brûlant, du sud-coréen Park Chan-wook.
A de l'érotisme très élégant. Et
très élégant, oui.
Le seul endroit où j'ai vu des boules de geisha, à part la chambre de Jérôme.
Trop élégant.
Un peu trop,
élégant.
Un peu plus glacial que brûlant.
Un peu léché.
Très
maniéré, trop maniéré.
Cinquième place, le choix de nos auditeurs, c'est Julieta, le mélo sombre, de Pedro Almodovar, qui a toujours pas eu de prix à Cannes, je sais pas ce qui se passe, année après année, maintenant il va être président du jury, où une mère essaye de renouer contact avec sa fille qui a claqué la porte, mais il y a plus de 12 ans.
Très très beau mélo, très sombre.
Très mélo.
Très mélo et très sombre, c'est le portrait d'une femme jouée par deux actrices. Et c'est quand même bien, bien intéressant. Suarez, Adriana Ugarte. Et voilà, c'est un grand beau mélo, trébuchant et sombre.
Pierre.
Des séquences magnifiques. Par exemple, tout ce qui se passe dans le train au début, c'est inoubliable. Enfin, il y a une espèce de suspense et de grâce de la mise en scène. C'est un film qui a bien marché, qui est un peu passé inaperçu à Cannes, et je trouve ça très injuste.
Oui, mais moi, je suis pas fan d'Almodovar. J'ai toujours l'impression de me balader dans un magasin IKEA avec toutes ces couleurs orange, jaune, rouge.
Oh ben, non, pas dans celui-là.
Un petit peu.
Non.
Il y a une très belle scène, effectivement, au début. Un cerf qui court le long d'un train. C'est magnifique. C'est superbe. Il aurait dû s'arrêter là.
Quatrième position, Carole, l'adaptation par Todd Haynes d'un polar de Patricia Highsmith avec Cate Blanchett et Rooney Mara.
Ah bah très beau, moi je trouve ça vraiment très 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 beau. Ce qui est injuste, c'est qu'à Cannes, il y en a une qui a gagné, c'est Rooney Mara,
oui,
et l'autre...
Très
On les a séparés.
Cate Blanchett qui n'a rien eu, ce qui quand même est très mufle de la part du jury. Et à part ça, je trouve...
D'autant que l'histoire, en plus, vraiment les assemble de manière presque inextricable.
Mais moi je trouve que c'est tout ce que fait Todd Haynes, c'est à la fois très provoquant et sous une forme extrêmement esthétique aussi, glacée, c'est vrai... mais très brûlante en même temps.
C'est superbe, cette histoire, ces actrices, cette reconstitution de l'époque, c'est très gonflé. Et Cate Blanchett, dans une scène finale avec rien, bouleverse toute la salle.
Mais c'est très 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 beau, et bon, c'est quand même, il faut dire, comment c'était interdit pour deux femmes de s'aimer dans les années 50 en Amérique. Il y a une scène d'ouverture, et la même scène est reprise à la fin, dans une mélancolie formidable, c'est très très beau.
Troisième position, je suis ravi, ça m'a surpris, c'est Manchester by the Sea, le très beau film du très économe, Kenneth Lonergan, trois films en 16 ans, qui a rassemblé quand même 370 000 spectateurs en France et qui se trouve donc dans le trio de tête du palmarès du Masque et la Plume, alors qu'il est sorti le 14 décembre, ce qui est quand même une prouesse. En 15 jours, les auditeurs ont voté en masse.
Peut-être qu'il aurait été encore plus haut.
Absolument, pour ce film, enfin c'est bien, troisième place.
Ah bah je trouve ça, moi, très émouvant, très, très, très bouleversant, avec un acteur superbe, Casey Affleck, qui est favori à l'Oscar, et j'espère qu'il l'aura parce qu'il le mérite. Et vraiment, je trouve qu'on va... L'émotion ne quitte pas, quoi. Et pourtant, ça pourrait être lourd au point de vue construction, et ça l'est pas.
Un chef-d'œuvre absolu. Ça égale les plus grands romans de la littérature, et on frémit...
Mais c'est très, très romanesque, très littéraire.
Et on frémit en imaginant si ça avait été Sean Penn qui avait joué le rôle du père déchiré.
Oui, et il faut citer aussi le jeune homme, Lucas Hedges, parce que c'est les rapports entre ces deux hommes, c'est absolument bouleversant, et la révélation du secret est très... Très, très boulot.
Deuxième place, le film surprise qui a fait chavirer les festivaliers de Cannes, à l'exception de Pierre Murat. C'est Tony Erdmann de l'Allemande Marenade. Ouais, père fait tout, y compris le pire et le plus drôle, selon moi, pour libérer sa fille du capitalisme, ce qui est quand même un combat courageux. Tu t'en fous.
Bah, absolument. Je voudrais remercier les votants du Masque et la Plume qui ne l'ont mis qu'en numéro 2, parce qu'avec un peu plus de chance, ils auraient pu le mettre en numéro 1, et ils auraient récompensé un film lourd,
ça
bavard,
a été très proche,
long,
hein.
Long, pénible.
Tu l'as pas revu depuis, je suis là.
Mais jamais! Plutôt crever. Alors là, plutôt crever que de revoir une deuxième fois un navet pareil. Alors là, mais non.
Un navet pareil.
Ah, c'est épouvantable. Enfin, c'est nul.
Même mon pauvre Pierrot.
Non, je te jure, vraiment. Non,
ah ben moi, je suis prêt à aller le voir avec Pierre Murat, mais je l'empêcherai de crever. Non, c'est formidable, une surprise, une révélation. Voir un film allemand de 2h40 être aussi drôle, aussi profond, aussi gonflé.
Bah, un film allemand drôle, on n'a pas vu ça depuis des décennies. Hein.
Je crois même que c'était interdit par la médecine à une époque.
Mais rassure-toi, il n'est pas drôle.
Non, mais moi je l'ai vu deux fois, mon
moi
cher.
Si.
Ouais, voilà. Et la deuxième fois, c'est encore mieux.
Ben moi, j'ai peur que ce soit pire.
C'est un vrai film anarchiste.
Voilà, et c'est d'une liberté, d'un culot. Bon, c'est formidable. Les rapports père-fille, quand même, ils sont dits, là.
Il y a une scène qui est drôle quand, à la fin, mais là, il faut attendre 2h27 pour sourire un peu avec
quand
la
déguise,
robe.
Quand ils se déguisent, c'est ça?
Non, mais la robe, quand elle n'arrive pas à enlever la robe et que tout le monde a parti, tout le monde est à poil, etc. Oui. Ben oui, mais ça, il faut attendre 2h15.
Il raconte pas la fin, il raconte le milieu.
Oui. Et le prix étranger des auditeurs du Masque et la Plume est attribué au film qui a reçu la Palme d'Or du dernier Festival de Cannes. C'est moi, Daniel Blake, de Ken Loach, désormais double palmé, qui a bouleversé près d'un million de Français. Film qui décrit, je vous le rappelle, l'absurdité du pôle emploi britannique et la manière dont un chômeur malade, Daniel Blake, qui est joué par cet inconnu Dave Jones, formidable, la manière dont il fait de la résistance. Je précise que Ken Loach, eh bien, les auditeurs du Masque l'aiment bien. Il avait eu le 6e prix pour Land and Freedom. C'est la première fois que j'ai entendu un discours Masque et la Plume d'Éric Nehoff sur le Ken Loach, digne de Jean-Luc Mélenchon. J'en revenais pas.
Mais c'était pas un hologramme en plus. Hein.
Non, mais c'était
incroyable. Non, mais le Ken Loach fait du Ken Loach, mais comme c'est lui qui le fait le mieux, pourquoi s'en priver ? C'est peut-être surpayé de Palme d'Or, mais le film est vraiment très réussi et c'est un film d'une tonicité, d'une espérance qui fait chaud au cœur et qui a. Moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait de temps en temps des films comme ça, effectivement.
Voilà, dans son discours de remerciement, Ken Loach a dit « un autre monde est possible et même nécessaire ». Je pense qu'il a absolument raison. Et bon, ce qui est incroyable, c'est la véracité de ce film. Hein, on croit que Kafka est né à Prague. Non, il est né à Newcastle. C'est inouï. Et à la fin, il faut rester, quand on voit ce film, jusqu'à la fin du générique, on voit que toutes les institutions qui ont été consultées pour ce film, donc tout ça est vrai, et en tout petit, elles ont voulu rester anonymes, et pour cause.
Pierre, un mot ?
Non, mais vous avez tout dit, c'est très bien, c'est parfait.
Merci. Et maintenant, le palmarès des films français, à la 10e place, Nocturama de Bertrand Bonello, qui raconte le parcours de jeunes terroristes dans Paris, film qui a divisé très violemment la tribune du Masque et la Plume, et qui a connu, il faut dire, honnêtement, un échec cuisant.
Et
totalement immérité.
En salle. On a
déjà... Alors là, pour le coup, je refélicite les votants des auditeurs, mais cette fois-ci sans aucune ironie, contrairement à tout à l'heure avec Marraine A de le film allemand. Je trouve très courageux d'avoir mis ce film en 10, qui a été mal accueilli, 10, mal accueilli, mal reçu, 10, mal compris, hein. Mal compris, et c'est un film tout à fait important.
C'est un film complètement crétin, mal joué, avec les scènes les plus ridicules de l'année, un karaoké grotesque, c'est pseudo-terroristes qui se terrent dans un magasin la nuit. Non,
génial,
c'est un film absurde, bête et prétentieux.
À voir pour le premier quart d'heure qui est muet et Paris est filmé de façon admirable. Je suis une grande fan de Bertrand Bonello, sauf là.
9e place, Quand on a 17 ans d'André Téchiné, chronique amoureuse, plutôt complexe d'ailleurs, dans les Pyrénées, entre un jeune métis adapté et le fils d'un militaire en mission à l'étranger, avec un rôle pour la mère, qui est Sandrine Kiberlin, que je trouve magnifique.
Elle est incroyable. Elle est une mère. Elle est vraiment ce qu'on peut imaginer de plus juste. et de plus présent et de plus amoureux de son fils. Et elle est magnifique. Et les deux garçons sont bien aussi.
Pas mal. Hein, petit roman photo, gnangnan et joli.
Oh non, pas gnangnan.
Oh bah Téchiné en grande partie retrouvée quand même, parce qu'on l'avait un peu perdu ces derniers films, je trouve. Et là, il y a cette espèce d'aridité et cette force dans la mise en scène qui était son cas il y a quelques années.
Huitième position, un film pour lequel, c'est vrai, j'ai beaucoup milité au mas, c'est Les Ogres Léa Fener avec Adèle Haenel. Formidable portrait de groupe d'une troupe de théâtre itinérante qui joue un peu de Tchekhov sous chapiteau des villes en ville. Je trouve que c'est une description du monde du spectacle itinérant, absolument unique.
Puis avec des destins, des personnages magnifique, tous savoureux. Marc Barbet, par exemple, qui joue Monsieur Déloyal, il est absolument formidable. Et ce qui est vraiment très, très bien de la part de Léa Fener, enfin, je veux dire, très encourageant, c'est qu'elle avait fait un premier film totalement différent.
Et remarquable.
Remarquable aussi, qu'un seul tienne et les autres suivront, qui était fermé, asphyxiant presque.
Sur l'univers carcéral.
Voilà, non, mais d'accord. Mais là, c'est de la liberté, je trouve ça vraiment très bien.
Bah oui, d'abord, c'est presque autobiographique.
C'est sa famille.
Voilà, oui, c'est sa famille itinérante et ça a une vitalité formidable.
Oui, un ouragan, c'est formidable, c'est tellement bien que j'ai presque envie d'aller au théâtre en sortant.
Oui, bah ça, si tu le dis toi, Eric, c'est évidemment un miracle.
C'est un compliment.
Septième place, une ville, adaptation économe, et pour moi bouleversante, du roman de Maupassant par Stéphane Brisé. Film mal compris par beaucoup de critiques et de spectateurs, avec Judith Chemla dans le rôle de Jeanne. Film qui a reçu le prix de Luc, non sans mal.
Oui. Ben moi, je trouve que Stéphane Brisé, bon, après La Loi du marché, on n'attendait pas là. Et il s'approprie Maupassant avec grâce, avec profondeur. Et il a trouvé en Judith Chemla une interprète idéale. Et je trouve que, voilà, ça mérite véritablement qu'on l'aime.
Je préfère Stéphane Brisé quand il a obtenu le prix du Masque et la Plume pour un film qui s'appelait quelque part...
Quelques heures de printemps.
Quelques heures de printemps. Merci. Ça, c'était vraiment bouleversant. Là, je suis resté sur le seuil.
Bah, tous les cinéastes ont le droit de se planter. Pauvre Maupassant, pauvre Astruc.
Sixième place, Malout, le film nordiste anthropophage et déjanté de Bruno Dumont qui se déroule sur la côte d'Opale en 1910 avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni, Tedeschi, quelques autres, la plupart d'ailleurs méconnaissables. Ça vous a plu? Ça vous a fait rire à l'époque?
Pas beaucoup, mais je suis un peu... Depuis qu'il a découvert l'humour... Moi, je trouve que en fait, il devrait pas filmer les gens, il les aime pas, Bruno Dumont. Quand il filme dans Hors Satan, des paysages, des buissons, le vent, le souffle... Là,
il y en a aussi dans Malou.
Ouais, mais il y a des gens, et il en fait des caricatures, et j'aime pas la façon dont il caricature l'humanité.
Maintenant, on a l'impression que même les buissons et les vagues sont payés par la production. C'est un film horripilant.
Oh non, moi, je le trouve délectable et barré.
Et baroque et drôle.
Voilà.
Cinquième place, quelle surprise, quel bonheur aussi de voir si bien placé dans ce palmarès des auditeurs L'Effet aquatique, le film posthume de Solveig Anspach qui est disparu en 2015 avec Samir Ghesmi, Florence Loirecaille, bouleversant retour dans son pays natal qui est l'Islande. Et pour moi, en tout cas, la seule occasion depuis très longtemps de pouvoir assister à un congrès international de maîtres nageurs. Je n'y avais jamais encore participé. Là, c'est assez...
C'est absolument désopilant, absolument désopilant. Et bon, et ça fait plaisir que les auditeurs du Masque saluent cette merveilleuse dame qui est partie.
C'est un beau choix, Pierre ou Eric.
Oui, oui, oui.
Fragile, délicat et réussi.
Oui, oui, loufoque et rêveur.
Quatrième place, choix à la fois politique, à mon avis, aussi bien que cinéphilique. C'est Merci, patron, le documentaire choc de François Ruffin sur, enfin, ou plutôt contre, Bernard Arnault, film devenu le manifeste, vous le savez, de Nuit debout, qui a conquis 500 000 spectateurs.
Salutaire.
Eric,
intéressant, mais je me demande si ces péquenots n'ont pas été manipulés par les réalisateurs.
Ah,
j'ai
cette
impression.
Non, ça c'est faux, ça. Non, non.
Bah, alors si c'est faux, tant mieux.
Et retire le mot péquenot, parce que je trouve
mais
que...
Mais c'est pas une injure.
C'est pas vraiment du cinéma, mais c'est très bien que ça existe. Voilà.
Troisième place, Le fils de Jean de Philippe Lioret. Un fils se recherche son père, un père retrouve son fils avec un... Gabriel Arcan, assez mémorable.
Ça, d'une discrétion, d'une délicatesse inouïe. Un film auquel on repense beaucoup après l'avoir vu.
Tout à fait d'accord. C'est un cinéaste très discret, Philippe Leray. Et là, particulièrement dans ce film-là, et alors un comédien époustouflant, ouais. Gabriel Arquin, mais qui est splendide, qui est l'égal d'Haribord ou Rému.
Il s'est échappé magnifique. Au Canada, mais il faut vous dire aussi que Pierre de Ladonchamp, est très 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 bien.
Deuxième place du choix des auditeurs, c'est Elle, le film machiavélique de Paul Verhoeven, adapté d'un roman de Philippe Djian avec une Isabelle Huppert qui ose tout, ce qui lui a valu un Golden Globe, sans doute le week-end prochain, non seulement un César, mais aussi un Oscar.
Toute la lourdeur de Verhoeven résumée en un film.
Le meilleur film de Verhoeven depuis assez longtemps.
Ce que je disais.
Vous êtes froid.
Oui, non, je trouve qu'on prend beaucoup de plaisir à regarder ce film.
Un peu pervers.
Isabelle Huppert, proche, très très proche de son violeur, la fille, c'est pas mal. Non. Et non, il y a un plaisir de...
Tu racontes même ceux qui ne l'ont pas vu...
Ah, c'est pas moi.
T'en as encore qui l'ont pas vu.
C'est contagieux.
Très proche de son violeur après.
Tu vas dire Laurent Lafitte.
Ah oui, ça c'est vrai. Mais ça commence comme ça.
Il est masqué.
Oui. Pas tellement.
Bon. Le courrier, s'il vous plaît, à Marianne, pas au masque. Hein. Directement à Daniel Lehmann.
Depuis un moment.
Oui. Ça, c'est pas une excuse. Et le 27e prix des auditeurs du Masque et la Plume, que je vous demande évidemment d'applaudir, c'est François Ozon pour son film Franz. Merci. Bonsoir François Ozon.
Bonsoir.
Je pense que ce prix doit vous faire plaisir.
Absolument, j'étais très surpris.
J'ai quand même regardé avant, je prépare mes émissions, et j'ai vu que, très étrangement, j'étais convaincu que vous étiez, je vais vous dire la vérité, couvert de prix, de lauriers. Or en fait, chaque fois je vois que...
À l'étranger.
Oui, mais en France, entre les Césars et le Festival de Cannes, vous arrivez toujours en tête, près de la tête, mais vous effleurez chaque fois la grande consécration.
Je reste près de la queue, finalement. Je reste en queue, plutôt.
Vous êtes souple. Ah, oui.
Ça. Bonjour les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un prix qui est un prix en plus populaire. Ce sont les auditeurs qui vous ont plébiscité. Je pense que dans une semaine, même les professionnels au César vont avoir, je l'espère, en tout cas le bon goût de vous choisir. Donc c'est un plaisir un peu particulier pour vous quand même.
Oui, j'étais extrêmement surpris. En même temps, je me suis rendu compte comme j'ai fait une longue tournée avec le film, je l'ai beaucoup accompagné en province, j'ai senti que le public réagissait énormément par rapport à d'autres de mes films, et je sentais que les gens étaient très émus, les gens y repensaient. J'ai eu beaucoup de courriers, alors qu'on n'en a pas sur tous les films.
Plus que d'habitude ?
Oui, et beaucoup qui venaient d'Alsace, en fait, parce que beaucoup de gens ont connu dans leur histoire personnelle avec l'Allemagne, des choses très fortes. Et donc, beaucoup de gens ont été touchés par rapport à l'histoire de France.
Quelques mots pour rappeler votre foudroyant parcours aux milliers d'auditeurs qui vous ont donc ce soir plébiscité. Vous m'arrêtez si je me trompe, évidemment. Vous êtes né en 67 à Paris. Vous êtes passé par la FEMIS. Donc, Claire Simon vient de raconter l'épreuve fatidique du concours. Et depuis votre premier long sitcom, c'était en 98, vous avez signé la bagatelle de 16 films, presque un par an, parmi lesquels, évidemment, devenus presque des classiques. Goutte d'eau sur Pierre Brûlante, où jamais Giraudeau n'a été meilleur, me semble-t-il, que dans ce film. Sous le sable, 8 femmes, Swimming Pool, Angel, Potiche, Dans la maison, Jeune et jolie, des films pour lesquels vous avez tourné, faut-il le rappeler, avec les plus grandes et les plus grands, Darieux, Deneuve, Huppert, Jeanne Moreau, Depardieu, Lucchini, j'en oublie. Et vous abordez, ça c'est peut-être votre spécificité, tous les genres. Ça va du polar au boulevard, du mélodrame au musical, de l'historique, je pense à Angel.
Un de vos films... Angel, c'est pas très historique. Je triche beaucoup avec la réalité historique.
Je confonds avec l'autre, alors, qui se passait au 19e siècle.
Non, c'est Angel.
Ah, c'est Angel, alors.
C'est Angel. Bon. Non, mais le film était par rapport à la réalité historique anglaise. Les Anglais n'ont pas du tout aimé le film, par exemple. Ils n'ont pas aimé ma reconstitution.
Ils ont trouvé que c'était infidèle?
Parce que j'étais dans l'imaginaire de cette jeune fille. J'étais dans son esprit à elle, et donc le film prenait beaucoup de liberté par rapport à la réalité.
Très beau film.
Et c'est un très beau livre. C'est un roman d'Elizabeth Taylor.
Absolument, un bouquin d'Elizabeth Taylor.
Plus un fantastique que j'ai du mal à définir, qui est Ricky, par exemple. Je ne sais pas dans quelle catégorie de fantastique il faut le classer. Et Franz, lui aussi, est un cas à peu près unique dans votre œuvre. D'ailleurs, vous avez surpris tout le monde avec ce film en noir et blanc, avec de rares taches de couleur, tourné en allemand, qui est la lointaine adaptation d'un mélodrame de Lubitsch que Pierre connaît par cœur. Lui m'a inspiré d'une pièce de Maurice Rostand, qui est, je sais, sur la table de chevet d'Éric, avec une toute jeune comédienne allemande, dont je suis tombé amoureux, il faut dire.
T'es pas le seul. Hein.
Paul Haber, oui, mais je parle de moi. En plus, j'ai vu le film en projection, j'ai eu de la chance. Elle était assise à côté de moi.
Oh. Oui, elle découvrait le film. Oh.
La pauvre.
Et avec Pierre Ninet, on est au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans le cimetière d'une petite ville allemande. Anna, c'est Paul Haber, donc, fleurit la tombe de Franz, qui est son fiancé, qui est tombé au champ d'honneur. Et un Français, c'est Adrien, Pierre Ninet, a fait aussi le voyage, mais pour se recueillir devant la même tombe. Il est bouleversé. Il était, dit-il, avant la guerre des tranchées, un ami de Franz. Il va alors entrer dans la famille du défunt. J'aime beaucoup cette phrase de la mère de Franz, « N'ayez pas peur de nous rendre heureux. » Jusqu'à devenir une sorte de fils de substitution pour les parents, jusqu'à séduire la belle Anna. J'en dis pas plus, il faut quand même garder, n'est-ce pas Pierre, quelques mystères.
Toujours.
La suite est aussi poignante que cruelle. Je rappelle que le film, qui est plein de trompe-l'œil, a rassemblé 650 000 spectateurs en France. Et c'est très intéressant, près de 160 000 en Allemagne. Vous nous direz tout à l'heure quelles ont été les réactions là-bas. Et il vient de sortir en DVD, si vous pouvez, évidemment, il vaut toujours mieux le voir en salle. Mais en DVD, il y a des bonnies. Il y a 25 minutes où il y a les essais costumes et lumières, les scènes coupées, les projets d'affiches, c'était très intéressant. Et puis aussi, quand même, la présentation de Franz au Festival de Venise. Les critiques vont vous poser des questions. Avant, je voudrais savoir comment vous est venue cette idée. La simple idée, parce que d'aller chercher, franchement, le film de Lubitsch et la pièce de Rostand, c'est pas évident.
Je savais pas au début que c'était un film de Lubitsch. En fait, j'ai d'abord découvert la pièce de Rostand, dont un ami m'avait parlé, parce que depuis longtemps, je voulais faire un film sur les mensonges et les secrets. Il m'a dit, tiens, cette pièce, lis-la. Et j'ai lu la pièce et j'ai trouvé qu'il y avait un argument qui était très beau, même si la pièce avait pas mal vieilli. Donc j'ai commencé à réfléchir et très vite, je me suis rendu compte que Lubitsch l'avait déjà adapté. Donc je me suis dit, bon, je laisse tomber, parce que comment passer après Lubitsch? En même temps, c'est un Lubitsch que je ne connaissais pas, alors que je connais quasiment toutes ses comédies.
Sous un titre qui dit tout.
Alors, il y a le titre américain et il y a le titre... En fait, le premier titre, ce que je me suis renseigné, aux États-Unis, il est d'abord sorti sous le titre « Broken Lullaby ». Et le film a été un énorme bide. Du coup, les Américains l'ont ressorti sous le titre « The Man I've Killed », c'est-à-dire « L'homme que j'ai tué », et c'est le titre qu'on connaît en France et qui est le titre de la pièce de Rostand.
Que n'avait pas évidemment voulu garder.
Ben non, parce que j'ai changé beaucoup j'ai changé complètement le point de vue. C'est-à-dire que dans la pièce de Rostand et dans le film de Lubitsch, on sait dès le début ce qui s'est passé. Puisque le film est raconté du point de vue du jeune Français. Et moi, très vite, en travaillant sur cette histoire, je me suis dit que ce qui m'intéressait, c'était d'être du point de vue de la jeune Allemande. Et que le spectateur suive son point de vue et qu'on ne sache pas non plus pourquoi ce Français vient en Allemagne déposer des roses sur la tombe de Franz. Donc ça a changé complètement les choses et il y a un espèce de twist du coup qui est donné au milieu du film alors que d'habitude
et qu'il faut continuer, me semble-t-il, à ne pas raconter si on veut.
En même temps, je pense qu'en le sachant, on regarde le film différemment et c'est tout aussi intéressant parce qu'on regarde.
Oui, mais la première fois, c'est mieux de ne pas savoir. Éric.
Absolument. Enfin, si vous le voyez une seconde fois, j'espère que c'est toujours regardable.
Et donc, ce sont les raisons principales pour lesquelles vous avez.
Non, après, il y a plein de choses. Après, il y a l'Allemagne, qui est un pays que j'aime beaucoup, qui est le premier pays que j'ai découvert enfant. J'ai une relation particulière. Parce que, en fait, mon père avait un ami allemand qui était médecin. Mon père était scientifique et il avait 4 enfants, comme notre famille. Et il y a eu beaucoup d'échanges entre nos deux familles. Donc, j'ai fait beaucoup de voyages en Allemagne enfant. Mais j'ai tué personne.
Et dès le début, vous avez songé à tourner ce film en noir et blanc ?
Non. Le film était prévu en couleur et l'idée du noir et blanc est venue progressivement. Alors au début, j'ai dit ça dans une interview, c'était repris partout et je me suis fait engueuler par tout le monde parce qu'au début, j'ai dit c'était un peu pour des raisons économiques. Parce que c'est vrai, quand on fait un film d'époque, pour faire une reconstitution, c'est très compliqué parce que tout coûte cher. Et le fait de mettre en noir et blanc simplifie énormément les choses, notamment les décors. Puisqu'il y avait beaucoup de décors qui, en couleur, demandaient beaucoup d'interventions, alors qu'en noir et blanc, c'était beaucoup plus simple. Et puis j'avais envie de, comme je savais que j'allais filmer en France des lieux typiques comme l'Opéra de Paris, la Gare de l'Est, c'est des lieux que nous on connaît très bien, et j'avais envie que ce soit pas exotique, mais qu'on ait vraiment l'impression d'être en 1919. Et c'est vrai que le fait de les filmer en noir et blanc, tout d'un coup, ça a amené un décalage.
C'est-à-dire que on est dans un film d'époque, tout à coup, enfin, dès la première image.
C'est-à-dire que toute notre mémoire de cette époque est en noir et blanc, puisqu'on a vu, on a vu des images de la guerre, on a vu des images des tranchées, et tout ça, on l'a vu en noir et blanc. Donc, dans notre imaginaire, on imagine même que les gens étaient en noir et blanc. Voilà. Donc, ça a amené plus de réalisme par rapport à l'histoire.
Où se trouve ce petit village allemand?
Kettlingburg. Au centre de l'Allemagne, ex-Allemagne de l'Est, une petite ville un peu moyenâgeuse et qui nous a très très bien accueillis.
Mais alors, Daniel, on parle du noir et blanc, les interventions rares et totalement fines de la couleur.
Ça, c'est mon goût naturel pour le technicolor. En fait, le fait de tourner en noir et blanc, j'avais une petite frustration, notamment par rapport à toute la promenade au bord du lac, parce que j'avais demandé à la jeune fille allemande qui faisait les recherches pour les décors de me trouver des décors à la Gaspard David Friedrich. Et donc, quand j'ai découvert le décor, j'ai dit « c'est magnifique ». Sauf que du coup, je les ai regardés en noir et blanc. Et en noir et blanc, c'était quand même un peu tristoun. Donc je me suis dit « c'est quand même dommage de ne pas les tourner en couleur ». Donc j'ai eu l'idée de ramener de la couleur un petit peu dans certaines scènes, comme si la vie revenait, et comme s'il y avait du sang qui revenait
Il y a une autre interprétation de la couleur aussi. C'est une scène, disons, un peu fantasmée, un souvenir réinventé, qui tout à coup, et c'est la première fois que la couleur intervient. Et
c'est pas rationnel.
Voilà.
C'est pas rationnel, j'avais envie que ce soit plus sensoriel.
Voilà.
Ça a été une grande discussion avec mes producteurs qui voulaient que les choses soient claires. Ils me disaient, mais c'est quoi la couleur? C'est les flashbacks? C'est la réalité?
Non.
Et j'avais envie que ce soit, j'avais confiance au spectateur et je pensais que si on pouvait ressentir les choses autrement que de manière rationnelle.
Mais je dois dire que vers la fin, il y a une intervention, mais vraiment subliminale de la couleur. C'est-à-dire que les lèvres de la belle Anna rosissent.
Et le tableau, surtout.
Et le tableau,
c'était le tableau de Manet aussi qui était important pour la couleur.
Mais est-ce que c'est justement l'apparition de la couleur, c'est sur l'intensité des sentiments et des scènes? C'est-à-dire que est-ce que c'est quand ça devient un peu intense que, comme quelquefois le rouge vient aux joues, est-ce que le film se part de ces couleurs?
Pourquoi pas?
Pardon. Non,
c'est votre interprétation,
ouais.
Oui. Oui, absolument, oui. Sauf que ça marche pas sur toutes les scènes, si vous regardez bien.
Oui, parce qu'au début, on se dit que ça va être un peu comme dans Bonjour Tristesse, que le passé sera en couleur et le présent en noir et blanc, et c'est pas tout à fait ça.
C'est pas tout à fait ça, non. Surtout que le passé est souvent un fantasme.
Ouais. Et la guerre est en couleur, beaucoup.
En couleur très désaturée, mais effectivement, il y a un peu de couleur.
Alors, vous avez trouvé où cette polar bear? Dites-moi tout.
En Allemagne, à Berlin.
J'imagine.
Ah non, parce que j'ai rencontré aussi des Allemandes qui vivaient à Paris, qui étaient actrices. Mais Paula, je l'ai trouvée en Allemagne. Je cherchais une actrice qui parlait un peu français.
Son français est délicieux.
Absolument, elle a un accent un peu à la Romy Schneider. Et ce qui était amusant, c'est que dans une manière un peu cliché, quand je parlais du casting, comme je savais que j'avais Pierre Niney qui était très brun, je me disais le français est brun, il me faudrait une petite Allemande blonde. Donc j'avais dit à la casting directrice, et donc j'ai découvert Paula, et Paula je l'ai trouvée extraordinaire, sauf qu'elle n'était pas blonde. Donc je lui ai demandé de se teindre en blonde, et elle s'est teinte en blonde, elle est venue à Paris exprès, et ça ne lui allait pas du tout. En fait je l'ai gardée en brune, et elle a accepté de...
Pour autant, vous n'avez pas teint Pierre Niney en blond.
Non. Mais aussi... Pour un Français, il fallait qu'il soit blond.
Alors, et Pierre Niney, comment est-ce qu'il a... Il a parlé allemand? Il a appris
appris l'allemand, absolument. Il a appris de manière phonétique, parce qu'il ne connaissait pas du tout l'allemand, comme tous les acteurs français. Je ne pense pas qu'il y ait un acteur français qui est... Ah si, André Wims. Parce qu'il est à moitié allemand.
Mais pourquoi? Il est suisse alémanique, je crois.
Non, je crois qu'il est allemand.
Il est allemand?
Oui, aussi. Et il a appris de manière phonétique, il a appris le violon, il a appris à danser la valse. Et je savais qu'il me fallait un acteur travailleur. Et Pierre, on savait que, vu son expérience au théâtre, à la Comédie française, et puis son investissement dans les films, je savais qu'il serait parfait pour le rôle. Et alors, par rapport à l'allemand, moi j'avais demandé à un professeur allemand, un garçon, d'enregistrer tous ses textes pour qu'il l'apprenne phonétiquement. Et en fait, l'allemand, il parlait vraiment un peu comme un nazi. Il articulait tout. Donc Pierre Niney m'a demandé au bout d'un moment, est-ce que tu peux demander à Paula de m'enregistrer tous les dialogues? Parce que j'adore la voix de Paula. Et du coup, il a appris avec la voix de Paula dans les oreilles. C'était beaucoup plus agréable. Et ça me permettait de tomber amoureux aussi. Donc c'était parfait pour le rôle.
Éric, c'est plus facile pour diriger des acteurs allemands ou des anglais comme dans Angel?
Alors, je préfère les Allemands parce que l'accent tonique, c'est assez compliqué pour les Français, alors que le rythme de la langue allemande, je trouve, est plus facile pour un Français. Et j'avais pris plus de plaisir à travailler avec les Allemands, en fait. Même si les Anglais sont très professionnels, mais je trouve que pour une oreille française, l'accent tonique, c'est un peu compliqué.
Et vous, vous le parlez très très bien, l'allemand, alors?
Je me débrouille. Non, je ne parle pas.
Comment alors est-ce que les Allemands ont reçu ce film?
Très ému. En fait, les Allemands étaient très émus de voir qu'un Français s'intéresse à leur histoire, et pour une fois, que dans un film français, on soit du point de vue des Allemands, et pour une fois, ils ne jouaient pas les méchants, parce que dans 90% des films français où il y a des Allemands, c'est des nazis, et on parle tout le temps de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui était assez surprenant aussi, c'était de voir que les Allemands n'ont pas fait beaucoup de recherches historiques sur la Première Guerre mondiale. On sent que tous les historiens ont travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, et la Première n'est pas très connue, et donc c'était une surprise pour eux que je m'intéresse à cette période.
En même temps, le sujet de ce film-là reste très très présent. La relation franco-allemande de l'après-première guerre mondiale reste encore très présent.
Très vite, je me suis rendu compte que le film avait, je pense que s'il a marché aussi, c'est parce qu'il a une actualité. Ça parle du nationalisme, la montée du nationalisme, la peur des étrangers, la frontière. C'est des choses dont on parle beaucoup aujourd'hui et je pense que les spectateurs l'ont ressenti.
Mais ça parle aussi de Daniel. L'équivalence des souffrances.
Absolument.
Il y a cette scène où effectivement...
Ça, c'est une scène de Lubitsch que je trouvais magnifique, qui n'était pas dans la pièce, que j'ai voulu garder.
Nous levons notre bière à la santé de nos fils morts. Et ça, ce sont les Allemands qui disent ça.
Ouais.
Et
ils auraient pu être les Français aussi, ils auraient pu être des pères français.
C'est ça, mais qu'il y a une équivalence dans la souffrance. Et que,
oui, c'était important pour moi d'être du point de vue des Allemands pour des Français.
Voilà.
Et que les Français ressentent ce que les Allemands avaient pu ressentir et que... Quand Anna vient en France, en tant qu'Allemande, quand elle entend la Marseillaise, par exemple, comment elle ressent ce...
Une terrible Marseillaise, je dois dire.
Elle est souvent terrible, la Marseillaise, vu les paroles. Hein.
Mais Pierre. Oui, ce qui est absolument fascinant, une fois de plus, dans ce film, François, c'est que vous êtes... Dans un de vos films précédents, qui s'appelait Dans la maison, il y avait Fabrice Lucchini plongé dans les fantasmes d'un de ses élèves, et on ne savait jamais, évidemment, vous illustriez ces fantasmes, mais on ne savait... jamais si les fantasmes étaient vrais, s'ils étaient inventés et tout. Et là, vous récidivez en quelque sorte, puisque on visualise l'amitié de Franz et d'Adrien. Et à la deuxième vision, quand on a vu tout le film et compris exactement ce qui se passe, on a envie de le revoir pour voir comment vous nous manipulez pour nous faire croire des trucs qui ne sont pas. Et ça, je pense que c'est votre perversité naturelle de jouer avec le spectateur, de ne jamais le laisser en repos tranquille, de le titiller.
Mais ça, c'est une constante chez François Ozon.
Oui, oui, oui.
C'est un désir de fiction, je crois, de manière générale, presque de manière métaphorique, c'est un amour du cinéma. Aimer les histoires, quand on va au cinéma, on veut croire à ce qu'on voit sur l'écran. Et dans cette scène dont vous parlez, entre Adrien et Franz, c'est les parents qui sont spectateurs.
Oui. Voilà.
Ils ont envie de croire. C'est d'ailleurs ce que je trouvais beau dans l'histoire, c'est que Adrien, il veut pas mentir, il est là pour dire la vérité. Mais en face à ces spectateurs qui ont envie d'entendre une fiction, il leur donne la fiction.
Mais nous aussi, on a envie de l'entendre.
Non, mais François, c'est l'éloge du mensonge.
Oui,
aussi.
C'est ça.
Je dirais que c'est l'éloge de la fiction.
Oui. Non, mais justement, dans
la
maison.
La fiction est toujours un mensonge.
Dans la maison, quand vous avez reçu le prix de la critique à Toronto. Oui.
Voilà, il a eu un prix à Toronto.
Voilà, ouais. Le prix de la critique internationale à Toronto. Et ça avait été donné au motif, ouvrez les guillemets, qu'il calme avec une complexité espiègle la tragédie de la vie. Ça, les tragédies de la vie. Et je trouve que ça va très très bien avec votre cinéma, la complexité espiègle. Parce qu'il y a toujours...
Voilà, oui, il y a quelque chose de ludique.
Il y a quelque chose de ludique. Et puis on nous balade, on veut croire ça, et puis vous nous emmenez ailleurs.
Mais il y a toujours une part de vérité dans chaque mensonge. C'est ça qui est beau, et c'est ce qui se révèle aussi dans cette histoire.
Vous filmez les deux... copains, faussement, mais les deux copains, comme s'il s'agissait d'une amitié amoureuse.
Non.
Non, je trouve
pas. Non, pas du tout. Non. C'est vous qui avez vu ça, Pierre.
Oui, ça alors.
Non, parce qu'ils sont en train de draguer. Ils draguent des filles ensemble. Mais c'est vrai que il y a des regards entre eux qui révèlent une certaine ambiguïté.
Les regards entre eux.
Mais c'est marrant parce que cette scène, on m'a beaucoup parlé de Jules et Jim, alors que j'y ai pas du tout pensé.
Ah, c'est drôle.
C'est un film de Truffaut que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, tiens, on pense à Jules et Jim, puisque c'est exactement cette période aussi que raconte Truffaut.
Oui, parce qu'il y a aussi une presque histoire d'amour, hein. C'est pas seulement un film sur les rapports franco-allemands, sur le couple Merkel-Hollande, hein. Il y a un petit côté Jules et Jim, même si vous n'y avez pas pensé, là, avec ces trois personnages.
Et puis nous, nous, on voudrait qu'elle marche, cette histoire d'amour.
Oui, mais oui.
On voudrait quand même, j'en dis pas plus. Hein. Je vous rappelle que ce qui nous prendrait malheureusement en cours de route, qu'on est avec François Ozon, le lauréat pour France du 27e prix des auditeurs du Masque et la Plume. Je redonne la parole à nos amis critiques, Pierre.
Moi, une question sur le tableau. Le tableau. Alors pourquoi ce tableau-là ?
Ah bah.
Non mais je pose la question.
C'est une bonne question.
Et pourquoi ce tableau-là ? Et puis on l'entrevoit ce tableau dans la chambre dans la deuxième partie d'Adrien. Donc est-ce que ça veut dire que finalement le tableau s'intitule Le Suicidé ?
Absolument.
Est-ce que ça veut dire en effet que pour vous le personnage d'Adrien est un suicidé en quelque sorte ?
Alors, l'histoire du tableau, c'est compliqué. En fait, ça vient vraiment de la pièce de Rostand. Rostand parlait d'un tableau de Gustave Courbet, avec un jeune homme avec la tête en arrière, et on pouvait croire qu'il était endormi ou mort. Donc j'ai fait des recherches, et j'ai trouvé le tableau de Gustave Courbet, que j'ai trouvé très beau, très romantique, mais pas aussi violent que je l'avais imaginé dans mon imaginaire. Donc j'ai cherché d'autres tableaux et je suis tombé sur ce tableau de Manet, incroyable, qui était complètement méconnu, qui se trouve à Zurich et qui s'appelle Le Suicidé, que j'ai trouvé d'une modernité incroyable. Oui. Et,
d'une violence incroyable.
Oui, et donc je me suis dit, voilà, ça exprime la violence de ces jeunes hommes qui sont partis à la guerre. La plupart sont revenus traumatisés. On sait qu'il y a eu énormément de suicides après 1910, à partir de 1919. Et donc je me suis dit, sans vraiment y penser, il me semblait que l'image était suffisamment forte pour exprimer beaucoup de choses. Après, qui est ce suicidé, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Ça peut être aussi Franz, qui dans la tranchée ne se défend pas beaucoup, qui veut pas tuer un Français. Donc je pense que ce sont tous ces jeunes hommes qui sont des suicidés en...
Le suicide est très présent, je veux dire, même s'il n'est pas accompli. Effectivement, c'est
oui,
une ombre.
Anna aussi est
voilà,
attirée
c'est
par
une
le
ombre
suicide.
Qui plane sur tout
absolument.
Le film. Quand même, le tableau est là à la fin, avec quelque chose, disons, de plus
là,
heureux.
Là, ce qui était important, c'était de le montrer en couleur.
Parce là, que c'est incompréhensible pour ceux qui n'auraient pas vu.
Oui, mais je veux pas.
On l'aperçoit en noir et blanc.
On l'aperçoit en noir et blanc, et comme le trait de Manet est très impressionniste, on ne se rend pas compte vraiment de la force du tableau. C'est ça qui m'intéressait en noir et blanc. Le tableau, il paraît un peu banal en noir et blanc, et dès qu'il est en couleur, il prend toute sa force, puisqu'il y a la tache de sang sur la chemise blanche, et il prend toute sa valeur vraiment à l'écran à ce moment-là.
François Ozon, puisqu'on a la chance de vous avoir à cette tribune, c'est pas tous les ans, parlons aussi un peu des autres films. Ouais. D'abord, je disais en préambule qu'on a le sentiment parfois que dans chaque film, vous inventez ou vous tentez de réinventer un genre, qui sont en général assez connus. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement, vous ne faites du cinéma que pour changer de style, d'univers, de monde après chacun.
C'est plus un désir d'expérimentation, d'essayer des choses nouvelles, mais je veux pas changer le genre. Je me mets pas au niveau de Stanley Kubrick. J'essaye juste de raconter.
J'ai dit réinventer. Parfois, vous réinventez un genre.
Est-ce que le suivant va contre le précédent, quoi, en quelque sorte ? Non.
Oui, souvent. Enfin, souvent aussi parce que je tourne un film par an et j'ai pas envie de me répéter. J'ai pas envie de refaire toujours la même chose.
Un film par an en France en 2017, c'est facile.
Il faut qu'il marche.
faut que ça marche à chaque fois ou pas ?
Moi, j'ai été élevé, j'ai eu comme professeur Éric Rohmer, qui était très proche de la production et qui nous donnait dans ses cours de cinéma à la fac, il nous parlait plus de production et d'argent que
Rohmer ?
Oui, Éric Rohmer, oui, obsédé par le fric.
Ça,
par
l'argent.
Et il était très proche, puisqu'il a créé...
Le Thomas Piketty de son époque.
Il nous disait, si vous avez besoin de moquette pour un film, allez à Saint-Maclou, c'est la moquette la moins chère de Paris. C'était génial d'entendre Éric Rohmer dire ça.
Ça alors.
C'est la marquise d'eau.
Oui, absolument.
Ça alors.
Et c'était, de toute façon, tous les réalisateurs de la nouvelle vague étaient très proches de la production. C'est pour ça qu'ils
mais
ont
vous avez
pu
créé
faire
votre
film.
Propre
Au
maison
de
production.
Au bout de quelques années, oui. Mais je travaille toujours avec d'autres producteurs parce que c'est trop de travail aussi.
Donc, pour répondre à la question d'Eric,
je suis conscient du prix des choses. Je pense que mes films sont assez équilibrés dans leur économie. Et que, en plus, je fais pas des films extrêmement chers, donc j'ai eu la chance à chaque fois d'avoir suffisamment de reconnaissance et de succès pour faire le prochain.
Alors, le prochain, d'après ce que j'ai lu ici et là, on est là encore très loin de vos précédents, puisque c'est un thriller érotique, c'est ça? Avec Marine Wacht et Jérémy Régnier.
Absolument, c'est l'adaptation.
Et Jacqueline Bisset.
Et Jacqueline Bisset, oui. Ça vous l'air perplexe.
Bah, Jacqueline Bisset dans un thriller érotique, oui.
Elle a bien fait la femme de Strauss-Kahn chez Ferrara.
Oui. C'est l'adaptation d'un livre de Joyce Carol Oates qu'elle a signé sous un pseudonyme, c'est un petit polar, qui s'appelle The Lives of the Twins, et c'est une histoire de gémelléité, et une histoire très, très, très excitante et perverse à la fois, enfin voilà. J'ai terminé le tournage et je suis en plein montage.
Et ça veut dire qu'il sortira
En 2017.
En 2017.
Et il y a des films que vous n'avez pas réussi à monter ?
Oui, absolument. Mais je me souviens plus lesquels. Là, j'ai un trou.
Mais
oui,
à quel moment, si vous faites un film par an ?
Non, il y a des films, des fois, qui se font pas, mais aussi parce que le désir part. Hein, vous savez, moi, je trouve que les idées, l'inspiration, j'ai pas de problème pour l'inspiration. C'est le désir. C'est le désir qui peut être fluctuant à un moment et... Et c'est tellement d'énergie de lancer un film, de convaincre des gens, que si vous-même, vous n'êtes pas convaincu, les choses ne se font pas. Après, il faut toujours... Moi, je pense que les réalisateurs d'aujourd'hui doivent s'adapter à l'économie du cinéma pour réussir à faire leur film.
Et j'évoquais les très grandes actrices, les grands acteurs avec lesquels vous avez jusqu'à maintenant tourné. Est-ce qu'il vous arrive de faire aussi un choix de film en fonction des rôles que vous avez envie d'attribuer à ces stars ?
Très rarement. La plupart du temps, j'écris d'abord et après, je m'occupe du casting. C'est vrai que j'ai une expérience un peu étrange avec 8 femmes, parce que c'est vrai que j'ai écrit 8 femmes sans savoir que j'allais avoir ces actrices.
Allons.
Non, je vous promets. J'ai surtout quand vous voyez quand Robert Thomas a fait le film, il avait pris que des actrices de seconde zone. Donc en fait, ce qu'on avait fait avec ma casting directrice, on avait fait 3 listes. Une liste A, une liste B, une liste C.
Et là, c'était A+.
Et en fait, on a eu la liste A, elles ont toutes accepté de faire le film. Donc c'était la bonne surprise.
Il n'y a pas eu de refus, y compris pour chanter.
Ah non, au contraire, toutes les actrices acceptent de chanter, même si elles chantent faux, elles adorent.
C'est vrai que quand on voit la filmographie, il y a un éclectisme apparent.
Mais troublant, je trouve.
Mais il y a François Ozon partout. Je veux dire, il y a l'ambivalence, il y a le trouble, il y a le mensonge. Et je trouve que ça, c'est magnifique de pouvoir insuffler ce qui est important vraiment. Aussi bien dans Sous le sable que dans Potiche. Enfin, je veux dire, je ne connais personne qui ait cet éclectisme apparent et cette continuité dans ce qui est le plus important.
Ça, c'est un éloge, c'est pas une question.
Si, je veux dire, est-ce que c'est vraiment dès l'écriture, même si on s'envole vers une comédie brillante et drôle, est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui...
C'est pas quelque chose de forcément conscient. Des fois, je me rends compte qu'il y a des choses qui reviennent d'un film à l'autre.
Mais il y a le deuil, par exemple.
Mais c'est vrai que, oui.
Dans la maison, c'est aussi le deuil, mais le deuil des illusions.
Absolument.
Et donc, il y a toujours quelque chose qui réapparaît et qui... Ça, c'est... Vous en êtes conscient dès l'écriture?
Non. Non, pas dès l'écriture. Non. Moi, ce qui m'intéresse au début, c'est de raconter une histoire. Après, je me rends compte qu'il y a des obsessions qui reviennent un peu par en dessous. J'essaye de me dire non, faut pas que je la traite, faut que j'aille ailleurs, mais à des moments je me retrouve.
C'est quoi les obsessions de François Ozon ?
Ah ben ça, c'est à vous de me le dire.
Et dans une nouvelle amie, est-ce que c'était pas un de vos films les plus utopiques, enfin, où là vous essayez de dire que le monde pourrait changer et être plus...
Oui, c'est vrai que c'est un de mes rares films où il y a un happy end et quelque chose effectivement d'un peu utopique, puisque c'était une réaction un peu au manif pour tous. Et c'était une manière de dire que voilà, de nouvelles familles pouvaient exister.
Voilà, c'est peut-être le film le plus militant que vous avez fait, peut-être, non ?
Oui, absolument, à mon insu, peut-être, mais oui. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une volonté un peu ironique de terminer par un happy end avec un mouvement de grue, avec une musique hollywoodienne.
On parlait d'actrice de la liste A, mais vous êtes aussi très très doué pour lancer des quasi inconnus. Ludivine Sagné, c'était vous, si je me souviens bien.
Pool.
Marine Wacht aussi. Et Paula Baer, là, vous allez vous la faire piquer par tout le monde. Maintenant.
C'est déjà fait. Non, je suis pas possessif. Je suis pas possessif. Je les surveille d'un coin de l'œil, mais c'est vrai que j'aime bien travailler avec des jeunes acteurs et des jeunes actrices. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de très émouvant. C'est pas le même travail que quand on travaille avec Daniel Darieux ou Catherine Deneuve, mais je trouve que toujours chez les actrices, il y a quelque chose de fort qui se crée. Alors peut-être que j'ai une nature de Pygmalion qui me pousse à travailler avec des actrices. Mais...
Et comment on travaille avec Daniel Darieux et Catherine Deneuve ?
Ah,
c'est une grande question. Avec Catherine Deneuve, j'ai eu 2 expériences. Ça s'est passé moyennement sur 8 femmes. Et ça s'est très, très bien passé sur Potiche. Avec Daniel
Darieux. Pourquoi moyennement sur 8 femmes ?
Parce que on se comprenait pas. On se comprenait pas, voilà, ça arrive des fois. Je pense que Catherine comprenait pas le film que je voulais faire. Le film était très théâtral et elle avait du mal à rentrer dans ce moule. Mais quand elle a vu le film, elle était ravie, elle a compris ce que je voulais faire. Et après, on s'est très très bien entendu. Bah oui, ça arrive des fois. Mais vous savez, des fois, d'une mauvaise entente n'empêche pas. Moi, je souffrais un peu parce que je la trouvais très bonne dans le film. Elle me donnait ce que je voulais, mais je sentais qu'elle n'était pas heureuse. Pendant le tournage.
Et dans Potiche, elle était formidable.
Dans Potiche, elle avait compris ce que je voulais faire, elle avait compris l'esprit de mon film, et donc elle était complètement avec moi.
En osant beaucoup, d'ailleurs. Hein. Elle osait... Si.
Oui, elle faisait du jogging.
En survêtements.
Adidas.
Survêtement. Oui, avec son petit tablier, ce n'est pas non plus...
Et Darieux, pour finir.
Elle a beaucoup d'humour.
Et Darieux, pour finir, pour ça.
Et Darieux, c'était un rêve, parce qu'elle était vive, elle était toujours à l'heure, prête, heureuse de travailler. C'était un bon petit soldat, je dirais.
L'émission va se terminer bientôt, François Ozon. J'imagine quand même que vous êtes cinéaste, mais aussi spectateur. Vous allez en salle. On a évoqué au début avec nos amis critiques tous les films qui apparaissent dans ce palmarès de l'année 2016. Est-ce qu'il y a, pour le spectateur, François Ozon, des films qui vous ont particulièrement touché, ému, intrigué?
J'ai beaucoup aimé aussi le film de Todd Haynes, Carole, que j'ai trouvé magnifique. Je trouvais qu'il y a eu un travail sur la bande-son. On parle rarement du son, je trouve, dans les films, mais il y a quelque chose de très ouaté dans ce film qui est très, très étrange. Je l'ai vu plusieurs fois et je trouve qu'il y a un travail magnifique de reconstitution.
Et c'est un film assez ozonien d'ailleurs, vous auriez pu faire ça d'ailleurs, je trouve.
Oui, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché, je trouve, dans sa pudeur et la beauté des sentiments qui s'expriment. Oui, j'ai trouvé ça très beau.
Et d'autres films, non, sinon
Le Almodovar aussi, que j'ai trouvé magnifique, la scène du train. Et j'aime beaucoup la manière dont Almodovar transforme son personnage avec une scène, avec une serviette, de manière très simple. Une scène de mise en scène extraordinaire, où tout d'un coup, on lave les cheveux d'une actrice qui a les cheveux mouillés, on enlève la serviette et c'est une autre actrice qui reprend le rôle. Je trouvais que c'était une scène extraordinaire.
Je remarque que vous citez plus d'étrangers que de...
Des Français
que de Français, hein.
Parce que j'ai rien vu en France. Non, mais il y a plein de films.
Alors la semaine prochaine, donc c'est vendredi prochain, c'est
11 nominations.
Il y a deux films qui ont 11 nominations.
Elle et France,
c'est-à-dire les deux films que nos auditeurs ont choisis. Évidemment, on vous souhaite d'en recevoir le maximum sur ces 11 nominations. Ce genre de soirée, vous y allez avec plaisir? Contracté,
J'y vais décontracté. À vivre, c'est pas très agréable, en fait. Parce que, à chaque fois que j'y suis allé, j'ai jamais gagné, en fait. On parlait de 8 femmes. 8 femmes, je crois que j'avais 12 et 13 nominations. Et ce qui était marrant, j'avais remarqué très vite que j'avais un caméraman qui était un peu ancien, un peu vieux, et qui me filmait. Et je remarquais qu'il y avait un jeune caméraman qui était tout le temps sur Polanski. Et Polanski gagnait tous les prix. Et j'ai compris que j'allais gagner aucun prix. Donc, je m'enfonçais dans le fauteuil.
Alors, il y a une chose très optimiste. C'est que Paul Haber est nommée comme meilleur espoir féminin.
Absolument.
Meilleure actrice, Isabelle Huppert dans Elle, mais meilleur espoir féminin, donc ça ne peut pas lui échapper.
J'espère, je croise les doigts.
Et puis encore une fois, historiquement, les auditeurs ont tellement bon goût que chaque année, le prix des auditeurs rafle plein de prix.
Est-ce qu'on peut répéter que France nous a tous bouleversés?
Très beau film que ce Franz de François Ozon, qu'on peut encore le voir en salle ou pas? Non, on ne peut pas le voir.
En province, je pense.
En région, vous voulez dire.
C'est pas péjoratif, la province.
Mais non. Donc, on peut le voir, mais pas à Paris. Sachez, dans tous les cas, qu'il sort en DVD. Vous avez tous forcément un grand écran. Il sort en DVD, qu'il y a des...
Ah, il ressort peut-être par rapport au César. Souvent, les films qui sont nommés ressortent.
Et avec le prix des auditeurs du Masque et la Plume, forcément.
Bien sûr.
Film magnifique, qu'il faut voir pour son histoire, pour la manière dont c'est filmé. Pour Pierre Ninet, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir,
mais qui est remarquable.
Et pour la sublime Paul Haber, à qui on souhaite tous un très très grand avenir. Merci encore beaucoup François Ozon d'être venu ici, bravo, pour ce 27e prix des auditeurs du Masque et la Plume que vous avez reçu pour France. Merci également Daniel Eman, Eric Neuhoff et Pierre Murat de nous avoir accompagnés dans cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella, Mo Studio, Sacha Guitry de la maison de Radio France. Il y avait ce soir à la technique Claire Levasseur, Fabien Capel et Pierre Costard. La réalisation était de Didier Lagarde. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, c'est le jeudi 2 mars. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry de la maison de Radio France pour deux émissions. L'une consacrée au cinéma et l'autre à la littérature. On parle de théâtre dans une semaine. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.